Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, c'est le moment d'accueillir nos drôles de dames comme tous les lundis pendant une heure. L'actu du week-end en Europe avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC. C'est live avec les meilleurs spécialistes par pays. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
David Lorto en Allemagne. Salut David.
Allô Fred, salut messieurs, salut à tous.
Philippe Auclair pour l'Angleterre. Salut Philippe.
Good evening, my dear.
Alors, Fred Hermel a une excuse ce soir. Il arrivera dans 40 minutes à la fin de l'after puisqu'il est en gala ce soir pour les 30 ans, je crois, ou 40 ans du journal AS.
Ah oui, les galas.
50 même. Le journal dans lequel il contribue, donc il est à la soirée avec Rafael Nadal, avec le roi d'Espagne, avec tout le monde, donc voilà, il nous racontera la soirée tout à l'heure.
Il y a intérêt à ce qu'il vienne, parce qu'à cause de lui, j'ai eu des problèmes ce week-end. J'aimerais régler mes comptes.
Pourquoi? Raconte.
Mauvais pronostic.
Il vaut mieux qu'il soit là.
Bah, dis-nous en un mot quand même.
Non.
Quel arbitre.
Ah, il tease.
Ok.
Ah là, t'es obligé de rester jusqu'à la
fin. Ça concerne un joueur qui joue dans le championnat de Simonet. Ah, la Juve.
Ah oui. Ah, j'ai compris.
Ah, c'est lui là. D'accord.
Sur Higuain.
Rien à voir.
Initial GH.
Rien à voir. Vous êtes complètement perdu.
Ah oui,
vous n'avez pas suivi l'actualité du week-end. Le capitaine d'une grande sélection présente au mondial qui insulte un journaliste.
Oh.
Ah.
Ok. Vous avez raté ça.
Ah oui, moi j'ai pas vu.
Ah oui, capitaine de la sélection du Maroc qui joue à la Juve.
Ah, ton nouvel ami là.
Ah oui. Ah, parce que ça te fait marrer.
Mehdi Benatia.
Oui. Mais parce que toi,
il a un chien carré.
Parce que toi, tu trouves ça drôle.
Non, pas du tout, Daniel. Mais je pensais que
non,
tu.
Non, mais j'aimerais qu'on en rigole pas parce que quand je vais.
Mais quel rapport
avec moi, je suis pas au courant.
Parce qu'en fait, le seul truc qui me retient de porter plainte, c'est que je me suis renseigné, c'est que c'est long. Non, mais... ça m'emmerde que ce soit long. Mais j'ai vraiment. Je me demande si je vais pas le faire parce que.
Et pourquoi toi? Pourquoi quel rapport avec toi?
Non, c'est lui qui s'est fait insulter, en fait. C'est pour ça que j'ai eu du mal à.
Ah, je croyais qu'il avait insulté un arbitre.
Non, un journaliste. C'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre aussi.
Il parlait
de
Daniel.
Pardon,
j'ai dit
journaliste.
Parce que c'est parti de lui. Parce que ça m'apprendra à essayer de blaguer avec lui, à faire le con, à le provoquer tout le temps. Voilà. Comme les gens sont trop cons pour comprendre, et visiblement également le capitaine de la sélection du Maroc et défenseur de la Juve. Et donc voilà.
Bah écoute, vous
je ne veux pas lui manquer de respect, messieurs, mais ça ne s'est pas forcément toujours très bien passé dans les relations avec, avec les entourages des clubs et entre autres les médias lorsqu'il était au Bayern. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir.
En l'occurrence, émettre l'hypothèse que le Maroc peut au moins en prendre 3 contre l'Espagne, ça équivaut à être traité de facho. Donc je me suis renseigné. Donc effectivement.
Oui, David, t'as raison.
Non, mais effectivement.
Traité de facho à U. Je ne sais pas si ça a une valeur.
Oui, ouais, bah,
écrit comme ça.
Si c'est pas l'écrire, c'est son problème. Mais n'empêche que ça a la même valeur. Donc je me suis renseigné. Effectivement, donc c'est passible d'une condamnation devant les tribunaux parce que c'est une insulte qui est lourde. Mais c'est 18 mois. Donc ça me fait chier en fait d'engager ce truc-là. Ça va faire 18 mois.
Bon. Enfin 18 mois, t'es pas tous les jours.
En même temps, j'en ai gagné un contre Ribéry. Je veux bien
en
gagner un contre lui. Ça m'emmerderait pas un petit peu. C'est dire l'état mental quand même d'un mec qui est capitaine d'une sélection très importante. Et joueur d'un club comme la Juve et qui vient perdre son temps avec ce genre d'ânerie-là. Bon, écoute. En plus, pour pas comprendre le contexte de Fred Hermel qu'on essaye de chauffer parce qu'il nous faisait croire que toute l'Espagne avait peur de la Coupe du Monde et des sélections qui étaient dans son groupe.
Oui,
t'étais là, non, vendredi.
Alors, vous l'avez en vidéo, hein, si vous voulez comprendre tout ça. Mais bon, après, voilà. Daniel, t'as fait passer ton message, en tout cas. Et on peut enchaîner sur l'actu du week-end. On n'aura plus besoin de le refaire avec Fred Hermel tout à l'heure, du coup. Et on y va sur l'Angleterre. Jingle Philippe Auclair.
Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi.
Philippe, un gros week-end en Angleterre et forcément, eh bien, le choc entre Arsenal et Manchester United avec donc un joli bus.
Oui, un jeudi bus, parce que José est bien arrivé avec l'autocar habituel, mais il a changé de marque, il avait un modèle qui n'était pas tout à fait celui auquel on a l'habitude d'être confronté, et je te dirais que je l'ai trouvé plutôt séduisant. En sens qu'on avait pris l'habitude de voir Mourinho, bon, on sait qu'il a un bilan absolument épouvantable dans les matchs à l'extérieur contre les équipes du top 6, hein, depuis qu'il est arrivé à Manchester United. En fait, cette victoire à Arsenal, c'est la première contre une équipe du top 6 à l'extérieur depuis qu'il est à Manchester United. Mais on a vu un United, certes, qui avait garé son très joli bus, très luxueux, mais quand ils en sortaient, ça avait vraiment beaucoup, beaucoup de gueule. Et c'est pas quelque chose qu'on avait vu nécessairement. Tu te souviendras, Daniel, de ce 0-0 ignoble à Anfield. Il n'y a pas d'autre mot. Et je me demande si Mourinho n'a pas quand même compris qu'il était temps, surtout vu le fait qu'il jouait avant Manchester City, comme Manchester City.
Tu me tarpèderas d'attendre le week-end prochain pour penser ça.
Voilà. Non.
Je pense que ce sera bus à trois étages.
D'accord.
Mais écoute, c'est dimanche.
C'est dimanche. Dimanche à 17h30 heure de Paris.
Dimanche 17h30, ouais, ça c'est inratable. Quel que soit le match de 17h de Ligue 1,
c'est
dimanche,
on est bien d'accord, c'est
désolé,
absolument inratable.
Je ne sais pas ce qu'est le match de dimanche à 17h en Ligue 1.
Ouais. PSG Lille.
Non, c'est samedi.
Alors là, ce sera Nantes-Nice.
Ah bah, mais il faut, si tu veux, je pense, on a beaucoup parlé et dit des choses pas nécessairement très amènes de José Mourinho dans le passé. Là, par contre, on a vu un vrai grand match à l'Emirates et on a vu aussi de la part de Manchester United des choses que moi je n'avais pas vues dans des confrontations contre des rivaux directs, à savoir une équipe qui pressait très haut de manière très agressive. Une équipe qui ne manquait certainement pas d'imagination. Quand tu vois les buts qu'il marque, notamment celui de Sud Valencia est pas mal, mais c'est surtout celui de Lingard avec ce mouvement Lukaku Martial qui fait cette passe absolument sublime.
Ouais, le geste de Martial.
Le geste de Martial est absolument extraordinaire. Et le finish poteau entrant de Lingard est pas mal non plus. Et c'est pas un Manchester United qu'on a vu très très souvent. Et je suis en train de me demander si jamais il se rend pas compte ou si simplement à cause de la personnalité des joueurs qu'il a avec lui, qui sont jeunes, qui sont rapides, qui sont puissants. Il n'est pas, et aussi avec Pogba qui était dans une forme exceptionnelle avant de péter les plombs, doublement, de voir un Manchester United quand même beaucoup plus séduisant. Et pourtant, face à une équipe d'Arsenal qui a montré énormément de choses, je veux dire que c'est pas tous les jours que tu as 33 ou 34 tirs au but, c'est pas tous les jours que tu as David De Gea qui te sort 14 arrêts, dont 3 absolument phénoménaux, et égalant ainsi le record du nombre d'arrêts dans un match de Première Ligue. Ça en dit quand même long sur la physionomie du match, mais d'un autre côté, je pense qu'on doit quand même insister sur le fait que Mourinho a montré autre chose dans ce match-là. Alors, Daniel, je suis d'accord, nous reparlerons, nous aurons sans doute une discussion similaire lundi prochain, après ce derby de Manchester que tout le monde attend, mais on a les crocs, on n'en peut plus. On y sera, hein, bien évidemment, avec SFR Sport. Moi, je serai là pendant toute la journée, tout le week-end, et on va essayer de vous faire vivre ça au maximum. Mais pour poser le décor, Pierre, tu vois, c'est quand même formidable de voir Manchester United sortir une performance comme celle-là avant le derby. C'est formidable.
Ah, c'est formidable. Mais moi, j'avais déjà senti un mieux, et notamment depuis le retour de Pogba contre Brighton et encore plus contre Watford. T'avais d'autres intentions. Ça se sentait déjà un petit peu. Mais là, c'est vrai que ça a été concrétisé avec ce match.
Mais sinon, je pense qu'on est. Il faut pas non plus. Exagéré dans un sens, et quand même ne pas oublier qu'il y a aussi des faits de jeu, qu'il y a des choses qui vont aller contre Manchester United. Alors bien évidemment, la suspension de Paul Pogba, tout le monde en a parlé ici.
Ah oui, ouais. Oui, tiens, mais comment j'ai... Oui, évidemment.
Une suspension de 3 matchs, puisque c'est un carton rouge direct, qu'il n'y a pas vraiment photo sur la couleur du carton. Il va y sans doute y avoir un quatrième match ajouté, parce qu'il a trouvé le moyen, et ça c'était... Autant tu pouvais dire peut-être que le rouge, c'est un accident, mais bon, il y a bien rouge. Autant la réaction après est complètement stupide. Il applaudit la décision de l'arbitre longuement, donc il va se prendre un match supplémentaire, donc il va être absent pendant 4 matchs. Pas malin, et c'est d'autant plus, c'est frustrant, parce que franchement, ce qu'il nous montre depuis son retour de blessure, c'est formidable, et ça ressemble au Pogba dont on rêve, parce qu'il est beaucoup plus sobre. Il a énormément d'impact, il est physiquement en pleine bourre visiblement. Il a épuré son jeu, comme on dit. Il a écouté les consignes de Mourinho, il est décisif, il marque, il fait marquer. Bon, ça aide d'avoir un Nemanja Matić à côté de toi, hein, bien évidemment, mais on voit un très 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 bon Paul Pogba, et c'est bien dommage, il va être en fait celui qui va manquer à ce derby de Manchester, et ce qui va sans doute pousser Mourinho a adopté un point de vue un petit peu plus défensif, allons nous dire, dans leur approche de Manchester City.
Alors sur le match, on avait au 32-16 un supporter d'Arsenal, mais qui a disparu entre temps. Donc
il est furieux, il m'en veut.
Bah je sais pas, mais bon, il va revenir tout à l'heure. Donc Pogba, il y a une petite passe d'armes d'ailleurs avec Guardiola, enfin pas vraiment une passe d'armes, mais un petit échange où Pogba avait dit on aimerait bien qu'ils arrivent avec plein de blessés City.
Oui, il l'avait dit, mais il l'avait pas dit de, il l'avait, la façon dont il l'avait dit, je crois que c'était vraiment tiré dans tous les sens. Il a commencé par dire bon, c'est pas des choses qu'on dit d'habitude, mais pour une fois, pour essayer d'équilibrer un peu les choses, ça serait bien qu'eux aussi aient des blessés, parce que nous on en a eu tellement. C'est comme ça qu'il l'a dit.
C'est de l'humour.
Oui, c'était bon, bah, c'était peut-être un peu lourd, là, mais bon.
Nous on est déçus.
Basta cosy, c'est vraiment rien de grave.
Voilà, mais il y a bien des fois de pouvoir rigoler aussi un peu.
Oui, on prend les choses beaucoup trop au sérieux.
Benjamin nous rejoint, ça y est, au 32-16, supporter d'Arsenal. Salut Benjamin.
Salut Benjamin.
Bonsoir à tous.
Et toi, malgré la défaite, tu t'es régalé.
Ah, moi, je me suis régalé. J'ai vu un match vraiment exceptionnel. Enfin, en première mi-temps, ça a été, en deuxième mi-temps, enfin, tout a été fabuleux, j'ai trouvé. Enfin, la défense d'Arsenal a montré ses limites. Je trouve que les deux grosses erreurs, dont l'erreur de Moustafi, c'est quand même à ce niveau-là, c'est quand même triste, parce qu'on avait je pense, les Mancarsan avaient les moyens de gagner ce match.
Oui, absolument.
J'ai trouvé, je sais pas si Philippe a trouvé comme moi, mais j'ai trouvé que Lacazette avait été vraiment, vraiment bon. Enfin, je trouve que Lacazette, il est toujours très utile. Moi, je trouve, depuis deux ans, il est toujours très utile. Même contre Tottenham, où il marque pas, je trouve que sur le but de Sanchez, il est là. Enfin, je trouve qu'il est toujours décisif. Il marque le but qu'il faut marquer. Bon, après, il y a la double action avec Sanchez, où malheureusement, De Gea fait un arrêt complètement surhumain. Mais je trouve que Lacazette est toujours là où il faut, quoi. Et c'est le recrutement qu'il fallait faire, et c'est le transfert.
Écoute, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Je suis épaté. Je m'attendais absolument pas qu'il réponde présent et qu'il progresse aussi rapidement, parce qu'il a progressé. Qu'il se soit adapté aussi rapidement. Je pensais qu'il était peut-être pas aussi vif, aussi malin, et ça c'est ma faute. Je l'avais pas regardé suffisamment bien quand il était avec Lyon. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Il apporte énormément à Arsenal. Et quand tu entends quelqu'un comme Ian Wright, qui est quand même guère que le deuxième buteur de l'histoire du club et l'un des plus grands avant-centres que l'Angleterre ait connu lors des trois ou quatre dernières décennies, et qui qui est dithyrambique quand il parle de Lacazette, et notamment de ses appels, de ses mouvements, ça veut dire tout simplement que ce joueur est en train de réussir son coup. Il est le meilleur buteur du club. Il a 8 buts en championnat maintenant, si je ne m'abuse. Ça veut dire que c'est un retour, un bilan particulièrement satisfaisant, surtout que Wenger ne le fait pas jouer 90 minutes la plupart du temps, on le sort. Ce qui est quand même assez hallucinant. Mais franchement, c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, hein, de toute façon, de voir un Lacazette qui est titulaire et qui s'en sort extrêmement bien.
Voilà, Benjamin, merci d'être venu dans l'after.
J'avais juste une question, si c'était possible. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal peut jouer la troisième place avec Chelsea?
Oui,
parce que moi j'ai vu Arsenal Chelsea le premier match à l'aller à Stamford Bridge, Arsenal était au niveau, contre Tottenham ils gagnent, ils pouvaient gagner largement contre United. Moi je pense qu'ils peuvent finir troisième.
Je suis d'accord avec toi, une chose pour moi, la façon dont Arsenal approche maintenant ses matchs contre des rivaux pour le top 4, c'est la façon dont ils approcheraient normalement la Ligue des Champions s'ils la jouaient, mais ils ne la jouent pas, et donc toute l'énergie est concentrée là-dessus. Ils ont également un bilan qui est plutôt satisfaisant contre des équipes dites inférieures. Mm-hmm. Donc je les vois totalement dans le coup, surtout si les clubs anglais continuent au printemps en Ligue des Champions.
Merci Benjamin, à bientôt dans l'after sur RMC et sur BFM Sport. Alors Manchester United a gagné, mais il y a toujours 8 points d'écart, parce que désormais il y a eu le Fergie Time, il y a le Pep Time avec Manchester City.
Et à chaque fois ça donne des fins de match de dingue, c'est quand même génial.
C'est dingo, ouais. C'est
la victoire de West Ham.
Ce but de David Silva, mais c'est c'est beau. Je sais pas si vous avez vu. Je trouve qu'il est encore plus beau quand il est photographié, que tu vois le quand cette espèce, parce que c'est un but de kung-fu, hein, qui met cette reprise en déséquilibre du gauche. C'est magnifique. Non mais je vais te donner des chiffres.
C'est 13 victoires de suite, c'est ça?
Ouais, 13 victoires de suite. Donc c'est le record de Chelsea établi l'année dernière, qui est égalé. Un record qui est également partagé par Arsenal sur deux saisons, puis également par Sunderland et Preston il y a très longtemps de cela. Mais ce que je trouve encore plus impressionnant, tu regardes les quatre derniers matchs qu'a joué Manchester City. tu as un match de Ligue des Champions contre Feyenoord. Alors tu vas me dire c'est pas grand chose, c'est Feyenoord, mais bon, il gagne à la 88e, but de Sterling. Tu regardes le match contre Huddersfield, il gagne 2-1 à la 84e, but de Raheem Sterling. Tu regardes le match contre Southampton, il gagne 2-1 à la 96e, but de Raheem Sterling. Et là, il gagne contre West Ham, 2-1, but de David Silva à la 83e. Et ça commence à être assez impressionnant, non? Parce que non seulement tu as du spectacle, tu as du jeu, ils ont terminé en 4-2-4 avec deux vrais ailiers. C'est d'ailleurs un truc que Guardiola a dit après la rencontre. Il a dit, ils jouent tellement bas contre nous, les autres équipes, que en fait je change de système et que maintenant je vais jouer sans doute en 4-2-4.
Bah, Otamendi il joue au milieu de terrain. C'est pas
mais compliqué. Carrément. Mais t'as vu ça?
Il joue plus derrière.
Il joue plus derrière, absolument. Mais de toute façon, il faut que tu apportes le surnombre dans un espace, et il le fait. Et franchement,
mais il a été intelligent encore, Pep Guardiola, hein, parce qu'Aguero est pas du tout dans son match en première période. Il est, il rate tout ce qu'il fait. On n'arrive pas à le trouver, etc. Et on sait que dans le système de Guardiola, si tu trouves pas ce pivot devant, c'est très problématique. Ouais. Et au lieu de le sortir et de mettre Gabriel Jesus poste pour poste, il laisse Aguero, il fait rentrer Jesus à côté de lui et il sort effectivement. Qui sort latéral gauche, je crois, ou latéral droit.
Danilo qui sort.
Ouais, Danilo, c'est ça qui sort. Et donc il enlève un défenseur, mais il s'en fout complètement puisque Otamendi joue au milieu, puisque, enfin voilà, et il a été très malin, ouais, effectivement.
Et en plus de ça, City a joué sans Vincent Kompany et sans Fernandinho, qui était un carton jaune d'une suspension. Ouais. Donc les gars, Paris réussit. 3 points de plus dans la difficulté, mais bon, un total de points qui est complètement hallucinant. Et comme le disait Daniel, ça nous donne des fins de match, mais ébouriffantes.
Enfin, le match, Philippe, faut le dire quand même. Pendant 60 minutes, c'est très très poussif de la part de City. Hein.
Oui, et c'est pas mal du tout de la part de West Ham qui sont bien en place, exact. et qui les énervent et qui se créent des occasions. Hein.
Ils en ont 3-4 grosses occasions.
Oui, absolument.
Alors autre pari réussi, Philippe. Là, on quitte les Manchester. Et ben c'est le pari de Claude Puel. Tu veux insister là-dessus?
Oui, parce que je trouve assez remarquable ce qu'il fait avec sa discrétion habituelle, sans se mettre en avant. Je constate une chose: quand il est arrivé au club, le club était 18e, il est aujourd'hui 9e. Je constate qu'il a perdu un seul des matchs qu'il a dirigé depuis qu'il est arrivé, et c'était un match contre Manchester City, donc c'est pas véritablement infamant, c'est moins qu'on puisse dire. Les deux matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont fait des matchs nuls, et des matchs nuls qui étaient parfois assez animés. Il y avait un 2-2 notamment contre Stoke, et il a gagné les trois matchs à domicile. Tu as Jamie Vardy, j'ai l'impression qu'il a rajeuni. Tu as Riyad Mahrez qui a été de nouveau mais absolument fabuleux avec les Tigers, et qu'on retrouve. Les Foxes, excuse-moi, je les appelle les Tigers. Ouais. C'est à cause de la bière thaïlandaise. Tu vois, c'est l'association d'idées, c'est leur ancien sponsor. avec les Foxes, et tu as un jeu qui a un petit peu évolué, mais il continue malgré tout d'utiliser ses longs ballons à destination de Okazaki, de Jamie Vardy. Et franchement, je trouve que le boulot que fait, c'est le boulot que fait Claude Puel dans la discrétion. Sa discrétion habituelle est franchement épatant. Et à Southampton, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de l'énorme débilité de la décision de se séparer de lui après une saison pendant laquelle il les avait menés 8e du championnat et finaliste de la Coupe de la Ligue. Bon, bah tant mieux pour Leicester, c'est tout ce que je dirais.
Très bien. Voilà pour l'Angleterre. Dans un instant, la vie tranchée de Simone Rovera sur.
Je peux juste une petite chose que je peux ajouter, parce que donc, il y a toujours. On nous casse les pieds à toujours vouloir ajouter un truc. Quand on parle de Manchester City, je voulais juste signaler une petite stat que j'ai vue pour Kevin De Bruyne, qui a encore eu une passe décisive. Depuis qu'il est arrivé à Manchester City, il y a un statisticien qui a fait le classement, le bilan des passes décisives dans les 5 grands championnats. Ouais. Numéro 1, Kevin De Bruyne. Numéro 2, Mesut Özil. Numéro 3, Christian Eriksen. Numéro 4, Luis Suarez. Numéro 5, ex aequo, Neymar et Messi. Numéro 7, Angel Di Maria.
Très bien.
Que ça vous on a que des joueurs de classe là-dedans.
Oui, c'est pas
comme
mal.
Quoi, comme être un passeur, ça veut aussi dire que t'as quand même un pied qui touche bien le ballon.
Non, t'as un pied et puis t'as l'intelligence.
Oui. Ah oui. Jérôme Rotten te contredirait pas.
Il est plus dans le classement du coup.
Non,
hélas.
Ouais, depuis un mois seulement.
Non, mais il n'y avait pas les stats à l'époque.
Le mois dernier, ses stats tenaient encore.
C'est ça. Et donc, moi, je note qu'il faut dire De Bruyne. C'est ça,
De Bruyne.
De Bruyne.
Oui. Mais c'est pas en anglais, ça.
Vous nous pardonnez,
non, c'est en
De Bruyne, toujours.
C'est en flamand, ouais.
C'est mon copain Christophe Taylor qui, à chaque fois, me dit Kevin De Bruyne.
Très bien, bon, salut Christophe Taylor. Dans un instant, donc, le foot italien avec Simone et le but de Gonzalo Higuain dans ce fameux Naples-Juve promis à Naples.
Et l'autre but, c'est celui-là dont je veux que parle.
Ah, de Benevento.
Oh, mais oui.
Bien sûr. Allez, à tout de suite dans la
série. Événement du week-end.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames. Nous sommes avec Philippe Auclair, avec David Lorto, avec Simone Rovera. Fred Hermel va nous rejoindre dans un quart d'heure et nous raconter sa soirée avec toutes les vedettes du sport espagnol. Place tout de suite à l'Italie, jingle Simone Rovera.
Où il y a des très bons attaquants.
Des insignes.
Des insignes, bien sûr.
L'Italie ne participera pas à une 19e Coupe du Monde.
Désolé. Désolé pour ce jingle, Simone.
C'est quand même assez bas comme coup, ça.
Oui, je suis d'accord.
Oui,
je suis d'accord.
Ouais,
c'est
pas
énorme. C'est quand même marrant, moi j'aime bien.
Toi, ça te fait marrer.
Ouais, bon, attends. Si ça nous arrive un jour, vous ferez la même chose, non?
Bah,
plus quoi dire.
Moi, j'avoue que j'ai du mal parce que si ça m'arrive, j'ai pas envie qu'on m'en parle.
Mais si, c'est que du football.
Ah non, là, c'est.
Bah, c'est
mais
que
c'est
football,
que du football, Simone. Mais
ça
bien sûr que si. Mais bien
c'est
sûr que si. L'Italie va s'en remettre et puis dans 4 ans, elle y sera. Et puis voilà, enfin dans 5 ans. Maintenant.
Bien sûr.
Enfin, c'est long, 5 ans.
Ah ouais.
Oh la vache.
Bon, Simone, tu veux revenir.
Est-ce qu'on peut changer de consultant?
En cours d'émission, c'est compliqué. Sauf si t'en as un autre.
Non, mais merde, c'est la même chose. Donc bon, écoute.
Ça, tu veux un consultant là, italien tu préfères Rotten ou Ducro?
Ah, je sais pas. À niveau, après l'élimination face à la Suède, c'est. Je préfère Daniel. C'est le seul qui.
C'est le seul qui comprend.
Il te faut que des Italiens.
Voilà.
Ça, d'ailleurs, je vous ai entendu en parler, pardon, hein, mais. Et je me suis toujours demandé, Daniel, comment tu as vécu. Parce qu'on sait que tu es un peu. T'as deux patries. T'es binational. Comment tu as vécu le France-Italie de 2000? Je voulais te poser la question.
Oh, c'est loin ça, je me souviens plus. Ouais. C'est à 18 ans.
Il n'y a pas eu que celui de 2000, non?
Non, mais là pour un
franco-italien
final de Coupe du Monde, il y a eu.
Avec le scénario et tout.
Étant le quart de finale 1998, les tirs au but, les gars.
Voilà, et bon, là, bon, il y a eu beaucoup.
Ouais.
Bon. Mon premier, c'est 78.
Comment tu les vis,
quoi? Premier France Italie, ouais, comment tu les vis?
Ça dépend des générations, des équipes, etc. Ou alors t'es tout le temps pour une.
Non, mais bien, quoi, je sais pas.
Non, bien, d'accord.
Excusez-moi. J'ai voulu faire Mireille Dumas.
Je n'étale pas mes sentiments.
Très bien. J'aurais pas dû faire Mireille Dumas.
Il a du temps d'un peu baisser les lumières.
Ouais, c'est ça. Je me suis emballé. Alors, Simone, ce Naples-Juve, donc ça devait être le match où ça y est, Naples allait marquer son territoire, montrer que Naples avait les épaules du futur champion. À l'arrivée, pas du tout. Gonzalo est passé par là.
Bah, c'est peut-être le match qui fait tourner cette saison. Probablement dans les mauvais sens pour Naples. Ces buts d'Higuain a remis presque à zéro tout ce qu'on avait dit vu un début de saison, c'est-à-dire une Naples qui avait peut-être à niveau potentiel les épaules pour être champion, qui avait l'envie d'aller plus loin, qui avait une maturité qui était différente de les dernières saisons. Et ces buts de Gonzalo Higuain, et c'est encore plus lourd parce que c'est pas seulement la victoire de la Juve face au Napoli à Napoli, mais c'est une victoire sur un but de Higuain qui donc il faut faire un double considération sur les résultats et sur le buteur. Aremi à zéro, on peut dire tout l'avantage de Naples en ces débuts de saison. Et à zéro, en début de saison, la Juve était encore les favoris pour les titres. Donc, en ce moment, c'est difficile de faire un nouveau pronostic parce que on pouvait s'attendre de voir Naples perdre face à la Juve, pas d'une façon si nette, c'est-à-dire que Naples a eu tout le ballon, tout l'avantage de la possession, mais ça n'a jamais presque mis en danger Buffon. Il s'est fait traiter comme une gamine par quelqu'un d'adulte, et ça fait vraiment mal dans la tête, dans les jambes des joueurs de Naples. Dans les jambes, surtout, Insigne va se blesser, il va rater les matchs de Ligue des Champions, et on sait quel enjeu il y a encore pour Naples en Ligue des Champions. Insigne jouait tous les matchs de Naples depuis octobre 2016. Il a joué 60 matchs d'affilée comme titulaire. C'est une absence qui arrive après la défaite
face à la Juve, une absence qui était déjà due à la fatigue qu'il avait accumulée dans les dernières semaines, sans jouer malheureusement cette Italie-Suède. C'est un début de poubagie et les faits qu'il arrive un peu à baisser les bras en ces moments pour la douleur, il sort pendant ces matchs quand lui, sans bol de Naples, devait être un homme qui peut être celui qui prend Naples sur ses épaules, même s'il est petit, mais il a des grandes épaules à niveau de football, et l'amener vers les titres. À mon avis, c'est un signe évident que Naples est beaucoup plus faible à niveau mental de ce qu'on attendait. En même temps, derrière, on a un scénario magnifique. C'est la meilleure Serie A depuis 2006, sûrement, depuis la descente de la Juve, la remontée, et un peu les dynasties qu'il y a eu, la grande Inter et cette Juve imbattable. C'est très compliqué de dire ce soir qui va être champion. L'Inter est toujours plus solide, la Rome est juste derrière. Mais surtout, ce soir, après vendredi soir, mais encore jusqu'à samedi soir, quand il y aura Juventus Inter, et là peut-être on va voir quelque chose qui change encore, et si c'est la Juve qui gagne, je pense que les titres peuvent prendre pas tranquillement, mais peuvent prendre potentiellement la route de Turin pour la 7e année d'affilée. Chaque année depuis 2006, il y a toujours une équipe tellement plus forte que tout le monde savait qui gagnait au début. Avec la Juve, on savait que c'était pas tellement plus fort cette année. Mais il y a un équilibre que je pense que c'est magnifique. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur championnat d'Europe parce que c'est pas ça, mais c'est aujourd'hui celui où il y a les majeurs équilibres et les quatre clubs qui sont en tête au classement peuvent gagner. Donc ça nous donne un magnifique spectacle. Donc ce but d'Higuaín, ça ouvre aussi un championnat qui était, oui, encore ouvert, mais ça risquait de prendre une direction de Naples qui aurait été magnifique pour les spectacles, mais
ouais, enfin, c'était pas non plus décisif, même si Naples gagnait.
Mais pour la tête des Naples,
même si l'Inter, vous pouvez pas dire à 6 mois de la fin d'un championnat quand une équipe est à 4 points que c'est terminé elle.
Il y a des matchs.
Naples avait besoin de cette victoire contre la Juve. Mentalement, tu peux pas savoir sur quel rail ça les aurait placés.
Vous m'avez pas compris. Simone dit si Naples gagnait, c'était fini pour la Juve.
Non, c'était pas fini, mais c'était vraiment important. C'était vraiment important.
Ouais, important peut-être, mais enfin voilà, on peut pas tirer de conclusion pour l'instant. C'est un championnat tellement serré, tellement plaisant justement que tu peux tirer aucune conclusion. Et même si l'Inter gagne contre la Juve,
non, samedi prochain, c'est pas sûr. Fini.
Enfin, on pourra pas dire samedi prochain. Je te donne rendez-vous lundi prochain. Tu verras, peu importe le résultat, tu me diras que tout est encore possible.
Mais ce sera une grande si jamais l'Inter gagne, que c'est pas fait, ce sera un énorme examen encore de l'Inter réussi. Après la victoire face à la Roma, après le match nul face à Naples, quand Naples semblait intouchable, si jamais l'Inter déjà s'en sort bien de Turin, à mon avis, fait un gros pas vers la maturité.
Est-ce que l'Inter a joué Benevento?
L'Inter a joué Benevento et il a gagné, mais avec souffrance. C'était un match très très compliqué.
Allons-y sur Benevento. Donc ça y est, Simone, vous avez votre Grégory Vimbé, votre Ali Hamada, votre gardien qui égalise à la dernière minute.
Votre Chilavert.
Ah oui, mais Chilavert, il montait pas.
On avait déjà...
Si, il montait, Chilavert aussi. Sur les coups francs, corner et tout ça, il montait. Il tirait les coups francs. Les pénaltys aussi, je crois, même d'ailleurs.
Pénalty, coup franc, il est tiré, mais
il montait pas, genre, sur un corner, comme ça.
Si, Chilavert, moi, j'ai déjà vu monter.
Je pense. Tirer les coups de pied arrêtés, mais lui, qui montait, ça me dit rien.
Ouais, moi aussi, ça me dit rien.
Déjà, on a eu, peut-être que personne l'a vu, mais en Coupe d'Italie, on a eu un gardien qui a pris la barre transversale sous coup franc, les gardiens de Torino, cette semaine. C'est les frères. Bah, il frappe,
il a frappé sur la barre, un coup franc.
Je croyais qu'il s'était pris la barre dans la tête, sur un coup franc.
Et c'est les frères de Milinkovic-Savic, les joueurs de la Lazio. Donc, on peut dire qu'il a un bon ADN. Mais l'histoire de Benevento, c'est magnifique. Tout le monde la connaît. Maintenant, elle a fait le tour du monde. Donc, il faut quand même un peu raconter qu'est-ce qui se passe. Premier match de Gattuso. On avait dit ici que pour Gattuso, c'était pas un cadeau d'aller jouer face à Benevento qui attendait cet point après 14 défaites consécutives.
T'avais rien à gagner,
toi, t'as à perdre. La chose plus drôle et plus bête, que les dirigeants de Milan ont fait ça pour faire en sorte que Gattuso commence avec une victoire. Ils ont décidé de virer Montella pour permettre à Gattuso de commencer avec une victoire. Et comme il a un bon calendrier derrière, il disait, Milan va enchaîner. Ce qui s'est passé, c'est une histoire incroyable. Déjà, il faut dire que sont 17 000 plus ou moins les spectateurs à Benevento, Stade Ciro Vigorito. Et vous savez, un club qui a perdu 14 matchs sur 14, vous pensez que les spectateurs, ils veulent plus les voir. Ils restent à la maison. Et non, il était tout là. Les stades étaient guichet fermé. Et à la 95e minute, quand Milan menait 2-1, ils étaient encore tous là à voir qu'est-ce qui s'y passait. Et qu'est-ce qui se passait? C'est l'impondérable. C'est les gardiens qui montent, un gardien qui, après le match, te dit, il marque un but de la tête. Et les gardiens, après le match, te disent, moi, je suis pas capable d'aller chercher un ballon de la tête. Donc, j'ai fermé les yeux et je me suis jeté. Mmh. C'est poétique comme image dans le foot professionnel où même une corner est calculée avec les blocs et il y a 300 schémas pour tirer un corner. Une gardien qui ferme les yeux et se jette et marque un but. L'histoire est magnifique. Ce gardien était méconnu au grand public. C'est un joueur qui appartient à la Juve, qui a fait des prêts un peu partout, n'a jamais réussi à percer. Il était remplaçant à Benevento en début de saison. Après, avec les mauvais résultats, ils ont changé aussi de faire un changement de gardien parce que peux tout changer. Ça ne change rien, mais tu donnes l'occasion à un autre joueur d'être protagoniste. Et c'est un joueur qui, jusqu'à 8 ans, il faisait des courses en vélo. Il aimait plus les vélos que les footballs, même si son père était entraîneur des gardiens.
Jusqu'à l'âge de 8 ans.
Et je sais qu'il a fait basculer son envie d'aller chercher le football plutôt que les vélos. C'est la fin de carrière précoce de Marco Pantani. Lui était enfant de Pantani. Il courait avec
le bandeau du pirate.
Voilà. Et la bandana. Et quand Pantani a terminé sa carrière avec les accusations de dopage, son corps a été brisé, on peut dire, mais c'était très jeune. Et donc, il a décidé de prendre l'autre direction, plus de famille, donc de choisir le football. Aujourd'hui, en Italie, on parle que de ça. Bien sûr, il a tous les journaux qui ont parlé de lui. Il lui a été invité sur une grande émission hier soir. Donc, vraiment, les protagonistes, si vous regardez sur la toile, sur Internet, sur Twitter, son but est commenté dans tous les langues du monde. Ouais. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a raconté. C'est l'histoire, la belle histoire. On espère que Benevento, aujourd'hui, puisse rêver.
C'est ce que tous les gardiens amateurs rêvent de faire un jour.
Simonet et Jean-Louis, c'est l'occasion de vous parler d'une autre personne. Je pense qu'on en reparlera il n'y a pas très longtemps parce qu'il vient de trouver un job. C'est un gardien qui s'appelle Glass, qui était comme le verre, hein, Jimmy Glass, qui était le gardien. Je pense que ça doit être le plus grand exploit, je pense, de ce type. Puis, il jouait pour Carlisle. Ouais. Dernier match de la saison 98-99, ils sont à domicile contre Plymouth Argyle. Ils doivent absolument gagner pour éviter la relégation. On est dans le temps additionnel. Il reste 10 secondes. Le score, c'est 1 partout. Carlisle gagne un corner. Et Glass monte de sa surface, vous devinez la suite, reprise de volée, marque le but, et grâce à lui, Carlisle sont restés, n'ont pas été relégués. Et c'est extraordinaire, mais le mec a très mal vécu ça, et il est devenu ensuite chauffeur de taxi. Et ça lui a un petit peu tourné la tête, il est devenu chauffeur de taxi, et il vient seulement de revenir dans le football. Et ça, on en reparlera, mais Daniel, tu vois, à la limite, on en parlera dans Transversal de ce genre d'histoire.
Ah bah oui.
Parce que le mec est maintenant à Bournemouth, et il travaille pour le club de Bournemouth.
Mais oui, faites un Transversal spécial gardien qui marque.
C'est une très bonne idée, ça.
Mais oui.
En Italie, on a eu Michelangelo Rampoule, la Massimo Taïbe.
Ouais, il y en a plein.
Ouais, après, il faut les relier dans une histoire. Tu peux pas tous aller les voir.
Je t'en fous, Daniel, tu voyages, tu relis l'histoire.
On va au Paraguay pour aller voir
Chilavert. Celui qui a le plus marqué, c'est Roger Rossini.
Oui, c'est le plus buteur
des gardiens.
Il y a moins de folie par un gardien qui tire les coups francs pour un gardien qui monte, ferme les yeux et marque un but de la tête.
Oui, il faut faire ça.
Trouvez-moi un angle parce que vous n'avez pas d'angle.
Ok, on en parle.
Attends, on va pas faire tout le boulot, Daniel.
Il faut que ce soit anglais.
Mais c'est incroyable cette émission là.
Non, il n'y a pas d'angle dans ton histoire.
C'est juste
un gardien qui marque. Et quelle histoire tu racontes une fois que t'as dit machin, il a mis un but?
Et les conséquences derrière pour leur vie, si tu veux. Il y a celui qui a pété les plombs, il y a Ali Hamada qui est devenu nul derrière.
Là, on est un peu mieux déjà.
Merci. Oh, j'ai l'impression que t'as l'école de journalisme, là, je suis de retour, c'est génial.
On est un peu mieux là quand même.
Tu sais que tu m'as donné un cours.
Là, tu précises.
Tu t'en rappelles pas, mais dans l'école de journalisme où j'étais, t'es venu faire un cours de CV.
Et voilà.
On pourrait faire un truc autour d'objets symboliques, justement, parce que par exemple, les chaussures, la chaussure avec laquelle il a marqué le but, Monsieur Glass en l'occurrence, Jimmy Glass, est exposé au Musée National du Football.
Ce qui est mauvais signe pour lui, c'est que ce soit pas ses gants qui soient exposés.
C'est vrai. T'as raison. Allez, dans un instant, l'Allemagne et l'Espagne dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show. L'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, Simone Rovera, Philippe Auclair et David Lortot, place à l'Allemagne dans les Drôles de Dames.
Je rappelle que Lortot porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et là, David, tu veux nous parler de Bayern-Chelsea en Ligue des Champions. Et la clé de cette rencontre, ce sera
Thomas Müller. Chelsea.
Thomas Müller. Bayern-PSG, qui vient demain, 20h45.
Ah, Bayern-PSG, pardon. Oui, oui, bien sûr, qu'est-ce que je raconte.
Oui, bien sûr. Alors, c'est l'occasion rêvée pour moi, parce qu'il y a un contexte que je vais vous rappeler rapidement. Le match du week-end où le Bayern s'est imposé 3-1 contre Hanovre, un promu fringant, était l'occasion, après 6 semaines d'absence pour blessure à la cuisse, du retour de Thomas Müller.
Ah.
Et oui, ça n'est pas anodin. Parce que Müller a été l'un des, allez, on va dire l'un des deux meilleurs joueurs de son équipe ce week-end avec Kingsley Coman. Lui était à droite, Müller, Kingsley Coman était à gauche. Et je vous ai bien écouté dans la première heure de l'after, aussi bien Daniel que toi Jean-Louis et que Pierre, parler un petit peu du côté gauche du Paris Saint-Germain. Vous me voyez venir. Lorsque Jupp Heynckes a pris les,
non,
a repris
pas,
les rênes du...
Le problème.
Ben, je sais pas, il va y avoir Kimmich et Müller demain sur le côté droit du Bayern.
Bouge pas, peut-être qu'Emery va aligner et Berchiche et Kurzawa en même temps.
Alors, simplement, pour
reconstituer. Tu sais, sur ce plan-là, c'est parenthèse. Mais personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce que ça pourrait donner Kimpembe de ce côté-là, à gauche. Mais moi, je pense qu'un jour, il faudra peut-être y penser. Bref, parenthèse terminée, je t'en prie, David, continue.
Oui, bah c'est, donc pour donner quelques éléments qui me font dire que Thomas Müller peut être l'homme clé d'une possible victoire du Bayern demain. Lorsque Jupp Heynckes a repris les rênes de ce club il y a quelques semaines, après les difficultés qu'on a commencé à comprendre au moment d'Ancelotti, donc Heynckes revient et redonne tout de suite du tonus à cette équipe. Et lorsqu'il a fait son discours introductif, Jupp Heynckes, le premier joueur dont il a, parlé, c'est Thomas Müller. En disant ce joueur-là était un joueur qui mettait de la vie sur un terrain. Il l'a appelé l'élément vivant. C'est la traduction littérale de ce qu'il a dit à ce moment-là. Et on s'en est aperçu ce week-end. Müller, là, il était absent depuis 6 semaines. Et lorsqu'un joueur comme ça revient sur un terrain avec le Bayern, c'est un joueur tellement imprévisible, dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Il peut rater un contrôle. C'est ce qu'il a fait ce week-end et ça a fait rire tout le stade parce qu'il y a un ballon qui est parti en touche alors qu'il croyait le contrôler. Ça, c'est le mauvais Thomas Müller. Mais il y a aussi le Thomas Müller surprenant dans le bon sens. Celui qui vous fait un centre tellement tellement impossible à lire et à analyser que ça transperce la défense et ça occasionne un but de Lewandowski qui a été refusé derrière. Mais Thomas Müller, ce week-end, a réalisé pas moins de 3 passes décisives. J'ai bien dit 3 passes décisives, 2 pour des buts qui ont été validés et 1 pour un but qui a été refusé pour un hors-jeu inexistant ou alors Lewandowski était hors-jeu d'un demi-centimètre. Ça a été visionné par la vidéo et le but a été refusé derrière. 3 passes décisives pour un retour contre une équipe qui est en forme, Hanovre, c'est quand même pas négligeable. Thomas Müller revient donc, il est immédiatement encensé par son entraîneur, il l'avait été lorsque Heynckes s'était installé, je le disais. Il a donné une passe décisive pour un but de Vidal, tiens, Vidal qui retrouve lui aussi la forme. Une passe décisive pour un but de Kingsley Coman, qui a réalisé...
Ils sont tous au top et PSG va morfler demain, c'est ça?
En tout cas, c'était son meilleur match depuis son arrivée au Bayern. Hein, très 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 incisif, dribbleur, performant. Il a perforé plusieurs fois la défense. C'est probable qu'il soit titulaire demain, Kingsley Coman, parce que Franck Ribéry, qui pourrait être évidemment son l'homme qui lui passe devant, n'est peut-être pas encore complètement apte à débuter un match comme ça. Et on va se retrouver donc demain théoriquement avec devant Lewandowski sur la gauche, Coman sur la droite, Müller et dans l'axe, sans aucun doute, James Rodriguez qui a lui aussi était bon ce week-end. Et alors, je veux terminer sur mon monologue sur Müller en disant quoi? En disant qu'un joueur comme ça, quand il est sur le terrain, il libère de l'espace pour tous les autres. Il a libéré de l'espace pour James Rodriguez ce week-end, qui a été le joueur avec le plus de contacts de ballons joués, avec le plus de passes réussies, avec le plus de tirs et avec le plus de tacles réussis. James Rodriguez. Ça, c'est dû à la présence de Thomas Müller. Thomas Müller a libéré aussi de l'espace pour Lewandowski, qui a marqué. Thomas Müller a libéré aussi de l'espace pour...
Pourquoi les tacles réussis par James, c'est grâce à Müller?
Oui, parce que c'est un joueur qui... Comment expliquer ça? C'est un joueur qui est tellement, tellement intéressant, même sans le ballon, dans la capacité qu'il peut avoir, capitaine ou non, peu importe, mais qu'il peut avoir à motiver les gens qui sont autour, à leur donner un espèce de morale un petit peu euphorique.
D'accord.
Et à provoquer un dépassement de fonction. Et effectivement, les statistiques étaient telles que dans mes arguments pour vous prouver l'intérêt de Thomas Müller ce soir, eh bien effectivement, Rames, qui était le numéro 10 de cette équipe, le Colombien, a livré un bon match aussi dans la prestation défensive. Et à mon avis, c'est pas étranger le fait que Thomas Müller soit venu sur le terrain ce week-end après 6 semaines d'absence. C'est pas étranger à ces performances-là.
Ok. Voilà. Très bien, David. Bah écoute, on verra ça demain, hein, si Thomas Müller est l'homme clé, effectivement. Ça y est, on a trouvé Fred Hermel avec nous en direct, donc du gala de l'anniversaire du journal AS. Salut Fred. Ah, pas de Fred.
Non.
Fred, pas
bonsoir
de Fred.
Bonsoir les amis, hola chicos. Oui, 50 ans. Mais je suis là, si, vous m'entendez.
Salut Fred.
50 ans.
Oui. Ciao Fred.
Presque
ciao,
l'âge Fred. De Daniel.
Salut. Oui. Il y a exactement 50 ans du journal AS, et c'était très chic. Hein. Il y avait le roi d'Espagne, la reine, il y avait Sébastien Coe, Rafael Nadal, enfin il y avait tout ce qui allait bien dans le sport. C'était très bien. Ça fait plaisir de passer une petite soirée comme ça et d'avoir l'honneur d'écrire deux fois par semaine une petite chronique dans ce mythique journal espagnol.
Très bien. Bon, on est d'accord quand même que Marca c'est mieux. Non. Bon.
Marca, c'est un peu moins fin, c'est plus. C'est-à-dire que c'est plus voilà, c'est un peu plus bourrin quoi. Moi j'aime beaucoup, j'ai plein d'amis. Mais voilà, AS, voilà, on peut parler d'art, de musique et tout ça. Un peu plus adapté à mon style.
D'accord, très bien. Oui, la fameuse finesse de Fred Hermel. Alors on y va.
Tu sais que le roi est rentré à la maison, a dit c'était une grande soirée s'il y avait Fred Hermel.
Oui, bah évidemment. Tu nous as préparé un avis tranché quand même. On y va, jingle Fred Hermel.
Il l'a déjà le cuir.
Fred, réponds.
Non, là je suis en short.
Très bien. Et ben là aussi, j'espère que tu n'étais pas en chante pour ta soirée. Fred, tu veux nous parler Ligue des Champions?
Oui, parce que c'est vrai que l'Atlético de Madrid va jouer demain soir un match décisif. Enfin, l'Atlético va jouer deux matchs, puisque les Colchoneros se déplacent sur la pelouse de Chelsea avec l'obligation de l'emporter et en même temps espérer que la Roma ne batte pas Karabagh, l'équipe d'Azerbaïdjan. Eh bien, sincèrement, moi je voudrais. Alors, je ne vais pas dire que l'Atlético va se qualifier, mais je pense que c'est pas mort. Alors, mon avis tranché ce soir, c'est de se dire voilà, le football, c'est aussi fait miracle. Le football, ce qu'on aime, c'est aussi de retournement de situation de dernière minute. Et là, au moins sur le match entre Chelsea et l'Atlético, rappelez-vous, il y a 3 semaines, 1 mois, je vous disais que l'Atlético n'allait pas bien, mais là, ça va beaucoup mieux. On a retrouvé une équipe plus solidaire. Philippe Luis a d'ailleurs dit il n'y a plus personne se cache. Sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils marchent tous dans le même sens. Griezmann qui marquait plus pendant 8 matchs, là il a marqué 4 buts en 3 matchs. Il y a de nouveau une bonne ambiance entre le coach et les joueurs, etc. Et ils y croient. Donc je pense qu'il est fort possible que l'Atlético l'emporte sur la pelouse de Chelsea. Et de l'autre côté, vous allez me rironner, bien entendu que la Roma normalement devrait gagner contre Karabagh, sauf que moi j'ai vu Karabagh jouer deux fois, notamment de visu en direct au Wanda Metropolitano, et je peux vous dire, et je te le dis mon petit Simonet, il va falloir que la Roma se batte énormément parce que c'est une équipe extrêmement bien entraînée, extrêmement bien organisée, et qui notamment sur coup de pied arrêté peut être dangereuse. Donc je pense que c'est mort, mais pas à 100%. Donc il y a une petite espoir quand même pour l'Atlético réel, de par le jeu qu'il a retrouvé, et de par cette équipe de Karabakh qui est vraiment chiante à bousculer.
Qu'est-ce que t'en penses, Simonet?
La Roma fait reposer plusieurs titulaires ces week-ends. C'était un match plutôt simple face à l'Aspal, en promu, ils ont gagné. Nainggolan va revenir, Perotti va revenir. Donc, Di Francesco sait très bien que Karabagh est compliqué. Donc, à préparer pour avoir la meilleure équipe en Ligue des Champions. Je ne crois pas en contre-performance de la Roma. Ça m'étonnerait que cette Roma s'est fait piéger par Karabagh.
Ouais.
Mais bon, je m'attendais même pas à un but de la tête du gardien de Benevento à la 95e. Donc,
c'était quoi le résultat du premier match Karabakh-Roma, c'était quoi le résultat?
La Roma gagnait avec beaucoup de douleur, très difficile comme match, elle a gagné à Karabakh 2-1. Mais c'était très très compliqué, donc ouais. Je suis d'accord avec toi, j'ai vu Karabakh jouer face à l'Atlético, je l'ai vu au match aller face à la Roma, et c'est une équipe très compliquée, il faut pas se faire piéger par les résultats des Chelsea qui a joué 11 contre 10 avec un penalty depuis je pense à la 15e minute, quelque chose comme ça.
Disons qu'il y a quand même un concours de circonstances, Fred, qui serait quand même assez énorme, tu vois.
Ouais.
Que l'Atlético ait gagné à Chelsea ouais. et que la Roma concède, enfin ne batte pas Karabakh, je trouve ça fait un peu beaucoup quand même.
Ouais.
J'y crois pas trop, c'est dur à croire.
Ouais, mais ça arrive, mais ça arrive dans le foot.
Mais
des
que
fois,
ça arrive, ok, et personne va te dire que ça n'arrive pas.
Ils sont chez eux.
D'autant plus que un problème supplémentaire peut-être, Fred, c'est le fait que Chelsea n'a pas encore assuré la première place du groupe. Ils ont assuré leur qualification, mais bien évidemment, assurer la première place, c'est très 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 important. Et tu auras, en l'occurrence, une équipe de Chelsea qui sera au grand complet. D'ailleurs, il a même fait tourner quelques-uns de ses joueurs pour le match contre Newcastle, en vue de ce match contre l'Atlético. Il a même eu, je sais pas si on en a parlé en Espagne, mais Conte a dit du genre préparez-vous à jouer la Ligue Europa. Ce qui est un peu coquin, Fred. Hein, ouais. Mais attention. Mmh. Mais pourquoi pas, hein.
Fred, on revient juste en arrière sur ce week-end. C'est rare quand même, mais c'est arrivé. Donc, ni le Real ni le Barça ne se sont imposés. Ni Valence, d'ailleurs. Hein, les trois premiers n'ont pas gagné ce week-end.
Non, c'est pas rare depuis quelques années en Liga.
Les trois en même temps, j'aimerais bien savoir quand c'est arrivé quand même.
Non, les trois en même temps, c'est vrai que c'est un peu rare, mais c'est vrai que là, il y a qu'une seule équipe, il y a que deux équipes qui ont vraiment profité de la contre-performance du Barça, ce 2-2 à domicile contre le Celta Vigo, avec d'ailleurs sur le banc de Vigo l'ancien adjoint de Luis Enrique que lui-même avait essayé d'imposer comme successeur, et puis les dirigeants ont dit oh non, on veut pas de toi. Eh ben, je peux vous dire que tactiquement, il était excellent. Juan Carlos Unzué, il a battu tactiquement l'entraîneur du Barça, l'excellent pourtant Ernesto Valverde. Le Real n'en a pas pouvoir profiter parce qu'ils ont fait match nul 0-0 à Bilbao. Valence a perdu à Retafe. Voilà, parce que voilà, ils sont fait rentrer dedans, et puis vous savez, il y a des petits terrains. Retafe, c'est un petit stade, un petit terrain, et quand ils bloquent bien les espaces, ben c'est compliqué. Et puis il y a que Séville et Atlético qui en ont profité, ce qui fait que on parle ici, on utilise le terme anglais, mon cher Philippe, on dit le Big Five, puisque les cinq premiers de la Liga se tiennent en 8 points, donc tout est possible. Hein, je veux dire, il y a plein de retournements, et la semaine prochaine, l'équipe du Barça a un déplacement ultra compliqué. Ça sera le dernier match de dimanche soir à Villarreal. Un stade où d'habitude, enfin, ils ont pour coutume de perdre des points. Donc, il va se passer plein de choses dans la Liga cette saison, j'en suis persuadé. On est loin d'avoir un champion, je peux vous le dire.
Je précise pour tous ceux qui demandent sur le hashtag RMC Live que l'avis tranché qui voit la Roma perdre contre Karabakh a été décidé avant la soirée de l'anniversaire de Haas. Donc, Fred n'a pas bu au moment de décider cet avis tranché. Voilà, il fallait le préciser quand même.
Je n'ai pas dit que la Roma allait perdre. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'Atlético, c'est simplement une contre-performance, c'est-à-dire un nul de Karabakh à la Roma avec une victoire de l'Atlético. C'est l'Atlético qui passe comme deuxième.
C'est fini, on vous retrouve
comme premier d'ailleurs.
Évidemment, tout au long de la semaine pour cette semaine de Ligue des Champions. Merci les drôles de dames, merci Daniel.
Adios.
Bonsoir. Merci Pierre.
Ciao.
After tout au long de la semaine, donc après les matchs européens, ça commence demain par Bayern PSG avant match dès 18h dans Team Luga avec un invité, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Adil Rami sera donc dans Team Duga, puis l'avant-match de Bayern PSG, le match en intégralité dans le Super Football Show et le débrief dans l'after. Bonne nuit à tous.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.